France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, deux invités pour saluer Georges Brassens. D'abord, Joël Favreau, qui fut comme second guitariste le complice musical des plus célèbres chansons. Et puis, Françoise Canetti, qui assista petite fille au début de Brassens, lancée par son père Jacques Canetti. Elle propose pour ce centenaire un merveilleux coffret d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, rassemblés pour chanter Brassens. Joël Favreau et Françoise Canetti à ce micro dans un instant, un midi programme de musique légère. Mais d'abord, puisqu'on parle beaucoup de l'Église catholique, écoutons ce qu'en disait Brassens lui-même au lendemain de Vatican II.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'ils fassent tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Votre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin.
Bonjour Joël Favreau.
Bonjour.
Je suis très heureux d'être avec vous ce matin parce que vous étiez à cette séance d'enregistrement, j'oserais dire mythique, et à tout l'enregistrement
historique. Restons simples.
De ce disque Trompe-la-Mort en 1976, avec notamment cette chanson. Ça avait beaucoup amusé Brassens de faire intervenir le chœur à la fin, vous dites.
Ah, hein, beaucoup, oui. Je crois qu'il avait recruté tout ce qui bougeait autour de lui.
Oui, c'est ça.
Pour se joindre au chœur.
C'était pas son habitude, pourtant.
Ah, hein. Ben non. Il y a eu un autre exemple avec Le Roi. Oui. C'est tout, c'est les deux seules chansons où il a convoqué des chœurs.
Voilà, et vous me disiez que parmi les voix qu'on entend, je lui avais consacré une émission il y a quelques années, il y avait notamment Jean Bertola. Hein,
oui, on entend sa voix puissante, voilà. Un petit moment comme ça.
Qui était un des conseillers, on peut dire, de Brassens.
Ben, je crois, oui.
Oui.
Je ne suis pas tout à fait au fait des relations intimes qu'il pouvait y avoir. Enfin, vous savez, il y a des différents cercles d'intimité. Moi, j'ai timidement franchi un cercle extérieur, puis peut-être un autre, et je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais je n'étais pas très près du centre.
Vous avez quand même franchi le cercle musical, ce qui n'est
ah bah oui,
pas
mais
la moindre chose.
Je crois que c'est le meilleur des itinéraires, parce que c'était partager quelque chose qu'il aimait faire, et se retrouver sur ce terrain-là. Je crois que c'est en faisant quelque chose qu'on arrive à se créer un lien d'amitié.
Voilà, et ça c'était donc en 1976, c'est le dernier album de Brassens chantant ses chansons. Hein.
Oui.
Voilà, vous étiez donc là, déjà dans le précédent qu'on va évoquer tout à l'heure. J'ai découvert quelque chose en lisant votre livre de souvenirs, Joël Favreau, que j'ignorais, c'est qu'en fait, Brassens avait presque toujours un deuxième guitariste dans ses disques, mais jamais sur scène.
Oui, jamais sur scène. Et pourtant, comme il m'a convoqué dans plusieurs émissions de télévision, oui. Il y a des gens qui me soutiennent maintenant absolument que j'étais sur scène
qui
avec lui.
Qui vous ont vu sur scène avec lui.
Alors quand ils insistent, je finis par ne pas les décevoir, mais jamais il y a eu de deuxième guitariste. Et j'ai cherché la raison, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai écrit le bouquin, entre autres. Oui. C'était m'interroger vraiment sur les raisons. Alors je ne peux hasarder que des hypothèses. Mais à mon avis, je crois qu'il avait déjà établi une solide relation avec son public qui était vraiment intime, c'est-à-dire de lui à eux.
Oui, c'est ça.
Et ce partage ne pouvait pas se réaliser si on augmentait la puissance de feu.
Par contre, il avait besoin de son contrebassiste, oui. Pierre Nicolas.
Mais il était en retrait quand même, derrière, oui. Contre le piano. Et il y avait le rituel bien classique, c'est que d'abord, il posait le pied sur une chaise, les applaudissements cessaient, clon clon, il faisait une chanson, il reposait pied par terre. À ce moment-là, il allait faire un tour du côté de chez Nicolas, boire un coup d'eau, lui dire deux ou trois bilvesies, et puis il revenait. Ça reposait les gens entre les chansons.
Voilà.
Et les gens retrouvaient le lien intime avec lui quand il chantait les choses. Voilà. Donc il ne fallait pas distraire ça. C'était à préserver plus que tout.
Voilà, parce qu'on le verra tout à l'heure, vous avez été donc le guitariste des enregistrements de studio, mais vous avez aussi accompagné pour d'autres raisons Brassens dans de nombreuses tournées, comme on va le voir tout à l'heure, et c'est pourquoi vraiment je suis très très heureux que vous soyez là ce matin avec nous, en compagnie de Françoise Canetti. Bonjour Françoise.
Bonjour Benoît.
Ça fait plaisir de vous revoir ici.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Vous qui faites tant toujours. Et tant pour le patrimoine de la chanson française, en ayant repris l'œuvre de votre père Jacques Canetti, en tentant de la prolonger, avec donc, on y reviendra, mais là, un quadruple CD d'hommage.
Un coffret 4 CD d'hommage à Brassens.
Qui rassemble...
Avec des angles complètement différents qui permettent de découvrir Brassens un peu autrement.
Avec notamment beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui qui revisitent Brassens. Et pour vous, ce n'est pas une revisite parce que vous devez être très jeune, mais vous avez quasiment assisté au début de Brassens, petite fille.
Écoutez, j'avais 4 ans quand Brassens est venu au Théâtre des Trois-Baudets. Je veux dire que ça m'a laissé une trace assez indélébile parce que c'était quand même quelqu'un qui était très mal à l'aise sur scène.
Voilà, vous avez vraiment encore quelques images en mémoire de ces premiers tours de chant.
Oui, en fait, j'ai en mémoire le malaise qu'avaient tous ces auteurs, compositeurs, interprètes lorsqu'on les comparait aux interprètes. Les interprètes étaient très très à l'aise, arrivaient à bouger, faire des gestes. Et les auteurs, compositeurs, était tétanisé par le trac. Voilà, il y avait une espèce de introversion. Et en fait, ils étaient sur la scène de Trois-Baudets pour apprendre à être l'interprète de leur propre chanson.
On va y revenir aussi, et merci en tout cas à tous les deux. On va commencer peut-être par remonter un peu dans le temps, et notamment dans le temps de Joël Favreau, qui, avant d'être un grand guitariste, a été un tout jeune Parisien. Pas du quartier de Belleville, mais pas très loin.
Thank you.
Belleville par Django Reinhardt et le Hot Club de France en 1942. Oui, je disais, vous n'êtes pas un gosse de Belleville, Joël Favreau, mais de l'Odéon. Bon, ça reste Paris. Vous êtes un enfant de Paris, on peut dire.
C'est pas du tout local, mon admiration pour pour Django. Moi, je l'admirais. Je l'admire toujours, mais j'ai commencé à l'admirer à l'âge où les autres admiraient Elvis Presley. Pour moi, il n'y avait pas photo. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire que Django Reinhardt est au jazz ce que Brassens est à la chanson. C'est-à-dire, il y en a des formidables aussi. Il ne s'agit pas de comparer le niveau, mais ils sont à part.
Complètement
tous les
à
deux.
Part, c'est ce que vous expliquez, effectivement. Mais tout ça pour dire quand même que vous avez grandi à Paris.
Oui, un peu.
Oui, avant d'être renvoyé par votre père sévère dans des institutions diverses.
À l'influence pernicieuse de Saint-Germain-des-Prés, disait-il.
Disait-il, exactement. C'est extraordinaire.
C'est encore ma joie.
Et oui, le terrible Saint-Germain-des-Prés des années 50. C'était terrible. Mais alors, ce qui m'a amusé quand même, c'est que vous avez eu, parmi ceux qui vous ont fait aimer la musique, Madame Martenot, de la famille du célèbre inventeur de Londres, Martenot.
C'est la sœur, en fait, c'est Mademoiselle Martenot. Madeleine Martenot, qui était la sœur de
Maurice Martenot.
J'étais un des premiers à jouer sur des prototypes de Londres Martenot. Oui, c'était.
Mais vous l'aimiez bien celle-là, contrairement à votre professeur.
Oui, parce qu'elle avait compris qu'un gamin hyperactif, faut le laisser se rouler sur son tapis. Après, il devient accessible à des leçons de musique.
D'autres professeurs vous ont un peu plus dégoûté, mais finalement vous aviez envie d'être musicien, ce qui n'était pas du tout effectivement le point de vue de votre père, et vous avez été un jeune homme, on va dire, rebelle assez rapidement, notamment alors pendant vos années de service militaire. C'est très drôle ce que vous racontez, votre façon avec les supérieurs de faire des choses qu'ils ne comprennent pas, ce qui leur évite d'être désagréable avec vous, parce que simplement ils sont dépassés.
C'est exactement, c'est-à-dire que si on veut les heurter de front, ils sont équipés et ils ont l'habitude de briser tous ceux qui vont les agresser. Mais si on les entraîne sur un terrain inconnu, par exemple, moi j'utilisais beaucoup le vocabulaire de Jarry dans Ubu, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Quand on demandait qu'est-ce que tu fais maintenant, je disais je suis boîte à Babil sur un voiturin à mitraille.
Alors, et ça pour l'adjudant en chef, c'était impossible.
Là, j'arrivais même à me balader avec une fleur de pissenlit coincée dans l'insigne de mon béret, et il me disait paternellement non, il faut pas faire ça, au lieu de me tomber dessus. J'adorais cette impunité.
Et donc finalement, après, vous êtes entré dans le métier, grâce à Georges Moustaki d'ailleurs.
Ah ben oui, c'est vrai, je l'ai remplacé quand il est allé faire sa première télé en Belgique, je me souviens. Et j'accompagnais un artiste qui s'appelait Jacques Doyen, qui disait des poèmes et qui chantait aussi quelques chansons, dont celle de Brassens. Et là, je l'ai accompagné, et voilà, c'était la première fois.
Et puis donc, comme beaucoup d'artistes de votre génération, vous avez commencé à écumer, on peut dire, les cabarets de la rive gauche.
J'ai pas écumé vraiment, vous savez, c'est trouvé que la Contrescarpe, c'était pas encore le cabaret célèbre qui est devenu, et Arlette Reiner, qui allait le reprendre, m'avait demandé, pendant que c'était encore un café, de mettre un peu d'ambiance. Alors, moi, je chantais les quelques chansons que je connaissais en surveillant les entrées et les sorties, parce que j'en connaissais pas beaucoup, et pouvoir replacer les mêmes. Et puis là, j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Bernadette.
Bernadette du Rousseau du Gontier, on en avait parlé ici même avec Michel Bernstein, qui était un personnage très original.
Ah oui, très original, elle était. Elle a monté son propre petit cabaret minuscule, et je l'accompagnais, et puis c'était pas d'une facilité énorme, parce qu'elle avait quand même des notions de musique extrêmement libertaires.
Oui, y compris sur le tempo et la mesure.
La mesure des tons et tout. Donc, grâce à elle, maintenant, je sais que je peux accompagner n'importe qui chante n'importe quoi.
Et parmi les mondes musicaux qui vous attiraient, jeune homme, donc Joël Favreau, il y avait tout le monde, au fond, latino-américain, très vite.
Oui. Alors là, moi, c'est peut-être ce qui m'a fait abandonner le classique, alors que j'étais quand même parti pour explorer vraiment profondément le piano classique. Mais là...
Et Paco Ibáñez en particulier.
Mais il s'est trouvé que c'est le premier qui m'a fait monter sur scène. Alors parce que je zonais avec ma petite guitare dans les endroits où on en jouait. Et puis il m'a aperçu un jour et puis il a eu pitié de moi. Il m'a fait monter sur scène.
Et on va le retrouver tout de suite, Paco Ibáñez, dans une chanson que vous avez choisie. Merveilleuse chanson péruvienne à l'origine, qui s'appelle « Que nadie sepa mi sufrir », c'est-à-dire « La foule ». Qu'on connaît nous par Edith Piaf, mais c'est la version originale, chantée par Carmela et accompagnée par Paco Ibáñez.
si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor, de mis amores, alma mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contentar, y que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor, de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de tu amor. Y pensaré que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor, de mis amores, alma mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contentar, y que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor, de mis amores, alma mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contentar, y que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más.
Carmela et Paco Ibáñez, c'est bien la version que vous vouliez,
ah,
Joël Favreau.
Ah oui, oui, j'adore ça. Ça me fait plaisir de l'entendre vraiment sous sa forme originale et oui, avec tellement de, oui, d'énergie et de sensibilité.
Voilà, donc un des enregistrements, une des musiques qui vous a tiré à vos débuts, et ça continue. Mais alors, voilà, je voudrais en venir, Joël Favreau, puisqu'on est là aussi pour parler de son centenaire, à votre rencontre avec Brassens. Et alors, c'est passé par un couple, hein, le couple de Jean-Pierre Lang et Colette Chevreau.
Oui.
Hein, lui étant un grand auteur de paroles célèbres, hein, on peut citer les Corons, je ne sais quelle quantité d'autres encore. Et Colette Chevreau, qui est un peu plus oubliée.
Bah oui, elle était connue à l'époque du cercle des amateurs de chansons à texte. Ah, elle était interprète de chansons
de poètes.
Elle était connue. On l'appelait le Buster Keaton de la chanson,
c'est ça,
parce que elle chantait d'une façon absolument impassible des horreurs comme ça, et tout le monde était très choqué à l'époque. Ce qui maintenant, d'ailleurs, je crée vraiment personne. Mais enfin bon.
Et vous êtes devenu son guitariste.
On faisait un petit groupe avec des ambitions folkeuses, genre un peu Peter Paul and Mary de l'époque, quoi.
Ouais. Et puis donc c'est elle qui vous a...
Elle était copine avec Brassens, voilà. Et m'a amené dans sa loge, quand il passait au TNP.
Et cette première rencontre alors,
Il s'est foutu de moi par la suite. Il m'a dit: tu étais glacé d'épouvante.
Pourtant il était gentil.
Mais oui, mais moi pour moi c'était un auteur, c'était quelqu'un presque virtuel, quoi. Alors quand on est en face de lui pour la première fois, je peux vous dire que c'est impressionnant, parce qu'il était costaud, il avait un regard vraiment intense et tout. Ouais. Moi j'ai dit bonjour monsieur, quoi. Mais ça s'est arrangé quand même.
Mais c'est ainsi donc, Joël Favreau, que vous êtes parti finalement en tournée avec Brassens, non pas comme guitariste de Brassens, mais non, comme guitariste de Colette Chevreau, parce que dans ses tournées, eh bien, il emmenait avec lui au fond ses premières parties, les artistes qu'il voulait aussi mettre en valeur.
Hein. Oui, ne serait-ce que par reconnaissance, parce que lui-même était passé dans les premières parties, donc il voulait quand même en rendre un peu.
Et alors donc, c'est finalement au cours de ces tournées que vous avez vraiment appris à connaître Brassens, qui était toujours, lui, dans sa grande belle déesse, en tête du cortège, si j'ose dire, non?
Oui, tous derrière et lui devant.
Tous derrière et lui devant, non, c'est un peu ça.
Mais lui, avant de chanter, il passait au moins 2 à 3 heures à chantonner des chansons comme ça, soi-disant pour faire ses cordes, qui pour les stabiliser, quoi, disons. Et alors, moi, j'ai peu à peu envahi sa hoge et j'ai commencé à faire des petites notes avec les siennes. Et je crois que c'est ça qui lui a donné l'idée par la suite. Mais
alors, sachant qu'il avait déjà pris l'habitude dans ses disques de studio, il avait déjà souvent un second guitariste, en l'occurrence
Barthélémy Rousseau.
Voilà.
Non, moi, j'avais aucune ambition du tout. Simplement, je marrais. Mais il m'avait quand même parlé à l'époque de son projet de réenregistrer l'album de La Supplique, qui n'avait pas de deuxième guitare. Parce qu'il y avait des mouvements sociaux, comme on dit. Et il m'a dit, là, ça parle de la mort, alors tu fais des contre-chants ironiques.
Ah oui,
ouais, alors moi, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, je me disais, ça peut servir. Mais je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire par là, quoi. Il avait poussé le bouchon un peu moins loin que l'avait fait Barbara pour Richard Galliano, qui lui avait demandé un jour, est-ce que tu peux me faire un accord bleu marine?
Ah oui, c'est
lui,
bien.
Il avait été assez interloqué. Bon, j'ai pu par la suite faire ce projet, mais de nombreuses années après.
Moi qui n'ai jamais vu Brassens en concert, je découvrais des choses aussi dans votre livre, des petits détails très intéressants. Mmh. D'abord, contrairement à ce qui est devenu un peu l'habitude maintenant, il s'adressait jamais directement au public. Hein. Ah, il faisait son récital, il était en intimité avec son public, mais sans du tout leur parler familièrement.
Hein. Pas du tout, j'ai entendu prononcer qu'un seul mot.
Oui.
C'était quand on lui réclamait une chanson quelquefois à la fin, il disait « après ».
Après, voilà.
Et c'est tout.
Et il ne saluait jamais.
Non.
Voilà, il sortait, il revenait, il faisait un bis éventuellement. Mais...
Ouais, il faisait un petit coucou peut-être à la rigueur, mais voilà.
Et puis il y avait toujours un piano sur scène qui ne servait à rien.
Si, il servait. En fait, pourquoi un piano noir accordé, etc. C'était pas seulement pour poser son verre, parce que je crois que c'était un peu encombrant comme guéridon. Mais je crois que s'il faisait, c'était justement pour aider les premières parties. Parce que s'il ne l'avait pas exigé pour lui, les premières parties auraient pu se contenter des casseroles, ce qui arrangeait peut-être les organisateurs. Mais alors là, comme ils étaient quand même un peu obligés de faire ce qu'ils voulaient, donc ils s'étaient débrouillés pour que les premières parties aient de quoi être accompagnées convenablement.
Pour lui, c'était juste pour poser son verre d'eau. Hein.
Ben oui.
Voilà. Et puis aussi, tiens, encore un petit détail parmi beaucoup d'autres, ça me fait plaisir, parce que c'est des artistes que j'adore, mais qu'on ne rapproche pas forcément de Brassens. Il adorait, par exemple, Mireille et Charles Trenet.
Hein. Ben absolument.
Il connaissait tout ça par cœur.
Mais complètement, même qu'il leur a soufflé les paroles quand il les a oubliées, parce qu'il les connaissait, lui.
Ah oui, c'est ça, il connaissait leurs paroles tellement bien.
Et je l'ai entendu chanter déjà dans la tournée, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire des petits machins avec lui sur ces chansons-là, et Mistraki et tout ça.
Tout ça, voilà.
Mais il en connaissait des centaines de chansons.
Ouais. Alors, c'est en 1972 donc, que vous enregistrez votre premier album comme deuxième guitariste de Brassens, et c'est le fameux album de Fernande. Hein.
Oui, sans doute.
Voilà, oui, c'est ça.
Non, je mélange un peu les dates, quoi. Pour moi,
c'était en 72, c'était Fernande, avec quantité de tubes, d'ailleurs, dans l'album. Hein. Mais vous vous rappelez les séances? Comment vous avez choisi les moments où vous interveniez, les chants, les contre-chants, les commentaires musicaux dans les morceaux?
Ça me venait assez naturellement, quoi. Ouais. J'avais demandé de me faire un enregistrement de voix-guitare pour que je puisse chercher des trucs. Et puis après, on a fait une répétition, et puis bon, ça a été, quoi. Surtout que la première fois que je suis venu chez lui, quoi, pour travailler sur l'album, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il m'a dit ce que tu veux.
Ce que tu veux. Bon, ça vous aidait pas beaucoup d'une certaine façon.
Mais je l'ai connu plus tyrannique quand même.
Hein. Oui, en même temps, oui, c'est vrai.
Mais quand même, il me disait est-ce que dans cette chanson, ça t'embêterait pas trop de jouer une fois, parce que après tu fais ce que tu veux, mais jouer. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Et puis, le ça, c'était la ritournelle qui faisait si évidemment partie de la chanson que, évidemment, je m'empressais de la jouer à chaque fois.
Il avait le génie des ritournelles, hein, c'est
complètement,
ce que vous dites.
Complètement, mais les ritournelles, les mélodies, tout ça, ça faisait un tout dont il était le compositeur.
Tiens, on va écouter une chanson très simple, d'ailleurs, de cet album Fernande, très simple musicalement, mais que j'aime tellement. Et on vous entendra, mais c'est assez discret, mais plutôt vers la fin.
Je n'ai pas à la ramener, je suis là pour aider. Pas
sauf
pour...
le respect que je vous dois, ça vous convient?
Mais volontiers.
Si
si vous y tenez tant, parlez-moi des affaires publiques. Encore que ce sujet me rende un peu mélancolique. Parlez-moi toujours, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Vie des chantres bêlants qui taquinent la muse érotique, des poètes galants qui lèchent le cul d'Aphrodite, des auteurs courtois qui vont en se frappant le cœur. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Naguère, mes idées reposaient sur la non-violence. Mon agressivité, je l'avais réduite au silence. Mais tout tourne-court, ma compagne était une gueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Ancien enfant trouvé n'ayant connu père ni mère, coiffée d'un chaperon rouge, elle s'en fut ironie amère. Portait soi-disant une galette à son aïeul. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Je l'attendis un soir, je l'attendis jusqu'à l'aurore. Je l'attendis un an, pour peu je l'attendrais encore. Un loup de rencontre aura séduit cette fugueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Cupidon, ce salaud geste qui chez lui n'est pas rare, avait trempé sa flèche un petit peu dans le curare. Le filtre magique avait tout du bouillon d'onze heures. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Ainsi qu'il est fréquent sous la blancheur de ses pétales, la marguerite cachait une tarentule, un crotale, une vraie vipère à la fois lubrique et visqueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Que le septième ciel sur ma pauvre tête retombe, lorsque le désespoir m'aura mis au bord de la tombe. Cet ultime discours s'exhalera de mon linceul. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois.
Joël Favreau, Pierre Nicolas et accessoirement Georges Brassens.
Oui, quand même.
Sauf le respect en 1972. Ce qui me frappe, Joël Favreau, dans cet enregistrement, et vous en parlez dans votre livre, c'est à la fois cet accompagnement très très régulier qu'il faisait avec sur sa guitare, dans toutes ses chansons, presque il y a 3 ou 4 formules qui sont à peu près toujours les mêmes, et ce qui lui donne une aisance pour se balader avec sa voix rythmiquement au-dessus de la rythmique. Hein.
Ah oui, mais pour moi c'est un chanteur de jazz, ça fait aucun doute. Mais il nous avait dit, même une fois, moi j'ai pas besoin même de guitare, il me suffit d'avoir pom-tchap, comme ça, et ça me suffit.
Voilà, et là-dessus, ouais. Lui, il se balade, il avance, il découpe les mots, c'est très...
C'est incroyable, comme il a pas éprouvé le besoin de développer une technique guitaristique très sophistiquée, parce que ce qu'il avait, basiquement, lui suffisait, et il fallait pas qu'il en mette plus non plus. Voilà. Parce que sans ça, ça aurait nuit à cette complicité qu'il arrivait à obtenir avec le public.
Mais Maxime Le Forestier, dans la préface de votre livre, explique que vous n'aviez pas les mêmes cordes. Hein, c'est ça.
Oui, je sais pas.
C'est un détail technique important,
oui,
non,
aucune importance.
Ah bon. Non. Lui, c'était des cordes en métal et vous,
oui,
des,
moi,
cordes,
des cordes en nylon.
Voilà.
Oui, cordes classiques.
Ça change pas
comme
grand
ça.
Chose.
Mais en fait, ce qui faisait marrer Maxime, c'est que moi, je joue avec un médiator sur des cordes en nylon, alors que c'est fait pour des cordes en métal, alors que lui joue au doigt sur des cordes en métal qui sont, en principe, réservé au médiator.
Brassens, évidemment, vous a aussi proposé assez rapidement de chanter vous-même en première partie quelques-unes de vos chansons.
Et me faire cette chance incroyable, quoi, de me prêter son public pour quelques instants inoubliables.
C'est ça.
Oui, je dois dire, c'était formidable. Je levais le torchon, comme on dit. C'est-à-dire, je commençais la première partie de sa dernière tournée qu'il a fait en 73. C'était Pierre Louqui qui terminait la première partie. Et puis ensuite, il m'a convoqué à Bobino pour son dernier Bobino en 76. Et puis là aussi, j'étais dans la première partie.
Et vous êtes donc devenu vous-même auteur, compositeur, interprète.
Bah, je l'étais déjà un petit peu, déjà mais enfin, disons que c'est resté quand même un petit peu confidentiel, voilà. Je dois dire.
Et ben, on va écouter une de vos chansons que j'aime beaucoup et qui plaît beaucoup apparemment aussi à Maxime Le Forestier. Ça s'appelle « La souris a peur du chat ».
Ah, il l'a chantée aussi.
Oui, il l'a reprise lui-même.
Ben oui. La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse, et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Le papa a peur du flic qui a peur du commissaire, lequel a peur de déplaire aux puissances politiques. Mais les hommes politiques filent comme des caniches devant ces messieurs les riches qui leur allongent le fric. Et ceux qui possèdent tout ont peur que les prolétaires un jour fichent tout par terre et leur prennent tous leurs sous. Ainsi font les petits polichinelles, ainsi font et le monde tourne rond. Oui, mais dans l'opposition, on a peur des militaires qui tremblent pour leur carrière devant l'administration. Et là, pour bien des raisons, on se méfie des barbouzes qui ont peur de leur épouse quand ils rentrent à la maison. Oui, mais l'épouse chérie qui fait trembler son bonhomme tombe à son tour dans les pommes en voyant une souris. La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse, et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Ainsi font les petits polichinelles, ainsi font, et le monde tourne rond. Ainsi font, y a plus qu'à tirer l'échelle, ainsi font, car le pinceau tiendra bon.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, et juste avant, c'était Joël Favreau, donc dans cette très jolie chanson. Hein, merci de nous l'avoir fait découvrir.
Heureusement, sur le reste de l'album, il y a quand même des chansons qui sont orchestrées par les soins de mon fils.
Effectivement, cet album qui s'appelle Neuf. Hein,
oui.
Voilà. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, mais je voudrais me tourner maintenant vers Françoise Canetti, parce qu'on vient d'évoquer avec Joël Favreau justement les premières parties de Georges Brassens. Et ces premières parties, bah, c'est justement un des CD hein, que vous avez voulu faire figurer dans cette compilation « Elle est à toi, cette chanson ».
Oui, parce que j'ai toujours trouvé que c'était absolument extraordinaire ce que Brassens faisait. Il se souvenait, comme l'a dit tout à l'heure Joël, d'avoir été en première partie, que c'était pas simple d'être en première partie. Ouais. Et il a voulu faire ce passage de relais. Et il exigeait d'avoir dans toutes ses tournées et à Bobino une première partie avec des gens qu'il choisissait.
Et avec, en respectant d'ailleurs toujours un petit peu le rythme du musical, c'est-à-dire ça finissait un peu par la vedette américaine, hein, oui. Mais avec une progression dans l'organisation de la première partie, n'est-ce pas, Joël Favreau, non ?
Ah oui, je ne sais pas s'il s'en chargeait dans le détail, hein, mais je sais pas, je crois qu'il se bornait lui-même à suggérer un tel ou un tel, et puis que Félix Vitry, le directeur, devait se débrouiller, ou peut-être que Canetti mettait la main à la pâte quand même.
Alors, il y a eu des gens comme Bobby Lapointe, par exemple, qui était là dans les premières parties.
Hein. Je m'en souviens. Oui. C'est vrai, une tournée avec Bobby, c'est quelque chose.
Ah oui, racontez-nous le...
Ah oui, quand tu disais Bobby, il est moins 20. Il disait, il est moins 20, alors je montre mon cul. Et où qu'on soit, il baissait son pantalon. Ça, c'était une des anecdotes de Bobby.
Alors donc voilà, vous avez rassemblé quelques-uns, François Canetti, de ces artistes.
Voilà, des Eric Zimmermann. Oui, enfin, des interprètes pas tous connus, parce qu'il y a aussi des interprètes que Brassens aimait beaucoup.
Voilà.
Et enfin, je pense à Roger Riffard, je pense à Zimmermann, je pense à Lucky, je pense à Colette Godard, je pense à Monique Godard, que Brassens avait découverte à Grenoble. Voilà, ce sont des gens qui avaient du talent et que Brassens aimait et qu'il a choisi pour ses premières parties.
Voilà. C'est une donc très bonne idée de le saluer de cette façon-là, oui. Entre autres dans ce coffret de 4 CD, Elle est à toi, cette chanson qui vient de sortir comme il se doit aux éditions Jacques Canetti. Oui. Et on va revenir au coffret Françoise Canetti, mais je voudrais maintenant quand même que vous nous redisiez un en quelques mots. Mais résumiez ou rappeliez l'histoire Brassens-Canetti.
Brassens-Canetti, c'est... Mon père écoute Brassens la première fois chez Patachou. Et c'est Patachou qui appelle mon père en lui disant « Canetti, il faut absolument que vous veniez, il y a un type formidable qui passe chez moi, que j'ai trouvé. » Et mon père monte immédiatement à la butte avec ma mère. Il écoute Brassens, il est vraiment sous le choc. Et en fait, il se rend compte que Brassens n'a pas du tout envie de chanter ses propres chansons. Il a envie de les faire chanter par d'autres, et notamment par Patachou, qui est une magnifique interprète. Voilà. Et donc, Brassens...
Elle l'a fait d'ailleurs, le Marie Bricoleur, des choses comme
absolument.
Ça, c'est de Brassens.
Hein. Ouais, bien sûr, elle va chanter Brassens. C'est vraiment la première à chanter Brassens. Et puis Brassens va démarrer aux Trois Baudets. Ça va pas être facile parce que quand même il a beaucoup d'avance sur son temps. Ouais, hein. C'est quelqu'un qui trouble beaucoup les spectateurs. Il n'a pas du tout envie de chanter ses chansons. Il est très très mal à l'aise. Et en fait, il se tourne très souvent vers Socrate puisque il appelait mon père Socrate. Vous savez qu'il donnait toujours des surnoms aux gens qu'il aimait beaucoup. Pour chercher de l'aide, voilà, et puis ils vont plus se quitter finalement, c'est-à-dire que Brassens va, je crois que jusqu'en 1981, je verrai Brassens.
L'année de la mort de Brassens, oui.
Oui, l'année de la mort de Brassens, c'est aussi l'année de la mort de ma mère, Lucienne Vernet.
Dont on va d'ailleurs parler dans quelques minutes. Mais...
Et Brassens était à son enterrement, très peiné, parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup ma mère.
Alors, on va le retrouver là, un tout petit bout d'interview justement, où il est avec votre père, et il évoque, je crois, cette période aussi de ses débuts... dans la chanson, on met aussi la voix de Jacques Canetti qu'on connaît moins et que je suis très heureux de retrouver ici.
La chose la plus importante, c'est quand même la musique, et la musique vous permet de mieux aimer le texte. Et si la musique est bonne, et si le texte est très bon, vous avez subitement cette chose ultra rare, c'est-à-dire la chanson forte, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Gorille, il y a l'eau vive, il y a Quand on a que l'amour, il y a Le petit bonheur de Leclerc, il y a Paris Canet de Ferré, mais regardez bien, je vous cite là, comme ça, en vitesse des chansons, parce que ce sont les chansons évidentes, mais elles ne sont pas tellement évidentes quand vous allez à la recherche.
Début, entre une chanson qui a eu du succès et une chanson telle que l'entend Canetti pour la première fois, il y a quand même un monde.
Bon, Georges Brassens, c'est la véritable apologie de Jacques Canetti, il n'a pas un seul défaut.
Oh, il a sûrement des défauts, mais comme tout le monde d'ailleurs, qui n'en a pas. Mais peut-être que sa qualité éminente, là précisément, la qualité qui consiste à lui faire rechercher le jamais vu, le jamais entendu, devient parfois un défaut parce qu'il le ferait presque exprès, vous voyez, il le ferait presque exprès de chercher des artistes qui ne marchent pas et dont les autres ne veulent pas. Ça, c'est son petit travers.
C'est ce qui aurait pu vous arriver.
Je crois que c'est sûrement ce qui aurait pu m'arriver si à mes débuts, quand le public venait se plaindre de moi, quand les journalistes écrivaient des articles, pas tous d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui faisaient des articles dithyrambiques, mais quand les journalistes se plaignaient en lui disant qu'il se trompait, s'il m'avait abandonné, là, s'il m'avait dit, non, ça ne marche pas, vous partez, quoi. Peut-être que je ne serais pas là en ce moment.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amants débutants, les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du gars oblique, des passants à l'air. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant déjà t'aimes pas te dire, on trouve que tu gueules bien sympathique. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se becquent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal de gars obliques, de passants à l'aide. Les amoureux qui se becquent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant de je t'aime pas de geek, on doute du gueule bien sympathique. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. Non, puisque toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics ou bancs publics, en se foutant comme un regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics ou bancs publics, en se disant de je t'aime pas petit, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, que seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du gars oblique, des passants sonnets. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant que je t'aime pas, t'es dit, ont des petites gueules bien sympathiques, allez. Sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant comme un regard oblique, des passants honnêtes. Des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant déjà des bancs publics, on dit du gars bien sympathique.
Michel Jonas qui revisite, comme on dit, les bancs publics, un des très nombreux morceaux donc d'artistes en tout genre hein, qui ont revisité précisément le répertoire de Georges Brassens, Françoise Canetti. Alors, vous êtes allé chercher un peu partout dans tout ce qui s'est fait, et Dieu sait qu'il s'en est fait beaucoup.
Il s'en est fait beaucoup, mais en fait j'avais une envie, c'était de rendre grâce à Georges Brassens de ses musiques.
Voilà,
parce
ça.
Que moi je suis de cette époque où... Où finalement, moi j'entendais très souvent les gens dire « Ah oui, Brassens, il fait toujours poum poum poum, c'est toujours... » On parlait toujours des paroles de Brassens, mais jamais de ses musiques.
Jamais de ses musiques.
Et même, on disait, c'est toujours la même chose. C'est ce que René Fallet disait « Les gens ont des oreilles de lavabo. » Et c'est vrai, enfin c'est quand même étonnant. Mmh. Et donc j'ai vraiment privilégié les gens qui mettaient en valeur les musiques... De Brassens.
Voilà. Alors,
si vous avez écouté Michel Jonas dans
voilà,
cette
Jonas,
valse jazzée.
Jonas, François Hardy, Arthur Ashe, mais aussi Iggy Pop, des choses plus
absolument.
Inattendues.
Absolument. Et Sandra Nkake, La mauvaise réputation, magnifique.
Voilà.
Magnifique. Voilà.
Et Julie
Simone.
Depardieu, et Pierre Colombo.
Et
dans
Frida
un autre genre.
Bocara. Alors, Frida Bocara, qui chante la prière, elle a enregistré ça dans la cathédrale d'Amsterdam avec 180 choristes, et Brassens adorerait cette version de Frida Bocara.
J'ai envie de vous demander, vous qui êtes musicien, Joël Favreau, et qui avez tellement travaillé avec Brassens, comment vous expliquez justement cette fortune des airs de Brassens qui ont été repris notamment beaucoup par les jazzmen justement voilà, c'est simplement parce que c'est des thèmes parfaits ou on dit parfois que c'est plus compliqué que ça n'a l'air d'ailleurs
C'est pas que ce soit plus compliqué, c'est qu'ils sont plus riches.
Oui,
que ce qu'il a laissé paraître.
Oui, c'est ça.
En fait, lui, il voulait que ça ne soit pas trop dominant par rapport aux paroles, mais ça ne l'a pas empêché de bien travailler. Quand il disait « Mais Munich ne doit pas se remarquer », je le soupçonne fortement de coquetterie.
En tout cas, c'est vrai que c'est des musiques qui sont...
Ah oui, mais
reprendre,
j'ai des standards de
jazz,
si on peut, mais absolument.
Voilà, c'est ça. Hein.
Absolument.
Voilà, et ce coffret le montre bien. Merci de l'avoir fait, Françoise Canetti, avec quelques collaborateurs qui vous ont aidé d'ailleurs à
non, vraiment
cette
des
entreprise.
Amis, absolument, des amis.
C'est plus joli que collaborateur.
Voilà,
là,
non, vraiment des amis. Joseph Moalic, vous permettez que je les cite, parce que vraiment, Joseph Moalic, que vous avez connu, qui est un des grands, grands spécialistes, qui nous a quittés au mois d'avril dernier, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Comment ne pas citer Claude Richard, qui est vraiment le spécialiste de Brassens, qui a absolument tous les enregistrements de Brassens. Pierre Schuller, qui est le président de Auprès de mon arbre, l'association. Et puis, bien sûr, Jean-Paul Sermonte, qui est le président de l'association des Amis de Brassens.
Voilà.
Et vraiment, je dois dire que tous m'ont aidé, et merci à eux.
Et alors, dans ce livre, alors j'ai découvert quelqu'un encore, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est votre mère, parce qu'on parle toujours de votre père, Jacques Canetti, mais votre mère, Lucienne Vernet, était elle-même musicienne.
Elle était elle-même musicienne, elle était pianiste, elle était mélodiste. Ouais. Vous l'avez peut-être connue parce que elle a été la première interprète de Brassens dans La Canne de Jeanne, avec Lucienne Vernet et les Quatre Barbus. C'était, voilà, c'était les rondes des chansons de France, voilà. Et donc, et Brassens l'aimait beaucoup. Ils avaient tous les deux en commun cette envie d'être tolérant et de poser sur les gens un regard bienveillant. Voilà, et puis...
Et alors c'est quoi ces textes de René Fallet, interprétés par Pierre Arditi sur des musiques de votre mère, avec la guitare de Joël Favreau, je crois. Et, expliquez-nous un peu.
Écoutez, c'est... En fait, un jour, Brassens a téléphoné à ma mère en lui disant, Lucienne, René vient de faire des poèmes. Les poèmes « Comment fais-tu l'amour cerise ?» Ce sont des poèmes que vous devriez absolument écouter, lire, et vous devriez en mettre certains en musique. Et donc ma mère, bien sûr, quand Georges lui disait quelque chose, elle prêtait vraiment une oreille, elle lit les poèmes de Fallet, elle se met au piano et elle va composer 11 musiques sur ses poèmes. Et puis ma mère tombe malade, et puis ma mère disparaît, et je retrouve ses poèmes, et je demande à Pierre Arditi d'interpréter ses chansons-poèmes, et bien évidemment, je demande à Joël,
à Joël
et à Vincent Faber
L'ami de mon fils, c'était un guitariste remarquable qui joue dans des groupes de musique actuelle, comme mon fils d'ailleurs. Et on a enregistré sous la direction de mon fils, et ça, c'est lui qui a fait la prise de son, on a enregistré les deux guitares qui soutiennent le texte dit par Pierre Arditi.
On va écouter tout de suite donc J'ai peur de vos yeux, mais juste avant, pour le plaisir, pour la couleur, encore un petit bout d'interview. Là, le premier qu'on entend, c'est justement René Fallet qui dialogue avec Georges Brassens.
Moi, personnellement, une fois qu'un bouquin est écrit, eh ben, pour moi, c'est fini, alors que Georges, quand une chanson est écrite, au contraire, ça commence. Voilà, là, pour moi, c'est ça la grosse différence.
Il faut savoir aussi, la chanson emploie quand même un langage, des tours un peu différents du roman. Le roman est quand même fait pour les yeux. Alors, il a moins besoin... Bon, je veux pas dire ça, je veux pas dire que les chansons... Que je fasse des chansons en exigeant bien plus de moi que si j'écrivais un roman, mais il me semble Il est un peu plus difficile d'arriver à trouver l'expression juste qui va plaire à l'oreille que trouver l'expression qui plaira à l'œil et donc à l'intelligence. Il faut d'abord une espèce de son. Il faut que le son précède le sens, en somme. Il faut que ça séduise d'abord l'oreille.
J'ai peur de vos yeux comme de la mer. Ils ont le goût de sel de mon dernier naufrage, les écailles d'argent d'un poisson mort, amer, et les reflets de fer des anciens coquillages. J'ai peur de vos yeux comme de la mer. Il y passe du verre, des éclats d'orage. Lorsque vous les fermez, ils sont encore ouverts. Jamais je ne pourrai les rejoindre à la nage. Ma bouche s'est emplie du sable de la plage. La vague emporte et me rapporte les yeux clairs. Je demeure et meurs loin de votre paysage. J'ai peur de vos yeux, comme de la mer.
Lucienne Vernet, René Fallet, Georges Brassens, Joël Favreau, autour de Pierre Arditi, donc dans ce « J'ai peur de vos yeux », très joli morceau. Joël Favreau, on l'a vu, donc vous avez bien sûr enregistré, chanté, diffusé vos propres chansons, mais aussi après la mort de Brassens, vous vous êtes attaché beaucoup à transmettre, à faire mieux connaître, à reprendre toute une partie du répertoire de Brassens avec des musiciens.
Oui, bien sûr, je lui devais tellement, je voulais faire quelque chose pour en retour, mais en fait, je crois que ma dette s'est alourdie parce que j'ai pris un tel plaisir.
À le faire, oui, c'était pas comme une dette simplement qu'on honore.
Ah non, alors, et là, c'était une expérience magnifique.
C'est passé par le sourire du chat.
Ah, c'est notre puissante multinationale.
Voilà, dont le logo était dessiné par Gottlieb.
Oui, c'est un cadeau qu'il nous a fait.
Parce que lui aussi était un grand amoureux de Brassens, il faut dire.
Ah, voilà. Oui, oui.
Dans ses explorations avec d'autres artistes du répertoire de Georges Brassens, vous avez assez rapidement pris le goût de travailler aussi, je le dis parce que je soutient beaucoup, si j'ose dire, cet instrument ici même, avec des accordéonistes. Ça a commencé avec Richard Galliano?
Non, ça a commencé avant. C'était pour mon propre album qu'avait produit Maxime Le Forestier. C'était Roland Romanelli que j'avais entendu jouer chansons brésiliennes et ça m'avait interpellé. Alors, il est venu m'accompagner quand je chantais en première partie de Brassens à Bobino. Et puis, il est parti parce qu'il est vers d'autres horizons. Il m'a envoyé un petit jeune qui venait d'arriver. C'était Richard Galliano. Et là, on a fait quelques trucs ensemble. Et j'ai des souvenirs merveilleux avec lui, bien sûr.
Et puis après d'autres, dont celui qui est devenu votre accordéoniste le plus proche.
Jean-Jacques Franchin. Alors, voilà. que m'a envoyé Richard Galliano en me disant, je suis allé l'écouter et il m'a impressionné. Donc, il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et effectivement, j'étais moi aussi très impressionné. On a tourné dans le monde entier en chantant des chansons de Brassens, quelquefois avec des artistes locaux, traditionnels. Oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Brassens est universel, non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace.
Voilà. Et alors, vous avez aussi prolongé toutes ces aventures brassensiennes, si j'ose dire, dans des enregistrements, et notamment Salut Brassens. Hein.
Oui, avec lui. Et alors, je continue à faire le spectacle. Alors, c'est un autre accordéoniste qui s'appelle Rodrigue Fernandez. Et c'est avec lui que je tourne aussi un petit peu partout. Et j'ai voulu que ça soit une formule assez simple, comme Brassens aussi, mais en montrant un peu plus de musique, parce que, évidemment, l'accordéon apporte beaucoup plus de possibilités qu'une contrebasse.
Et cette chanson, Philistin, alors ?
Ah ben alors là, c'est une chanson que j'ai voulu faire d'une façon brésilienne, parce que je trouvais que la bossa nova a un côté très gentil. Et pour, quand on dit des horreurs, le dire gentiment, ça les rend plus efficaces.
Philistin, épicier, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent, vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, me taire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes.
Jean-Jacques Franchin à l'accordéon, avec donc mon invité Joël Favreau dans cette très belle version des Philistins, extraite de l'album Salut Brassens. Aujourd'hui, Joël Favreau, je disais que vous aviez grandi à Paris, mais vous avez quitté Paris.
Oui.
Vous vivez sur les bords de la Loire, c'est pas mal non plus.
Oui, c'est bien parce que les bords sont variables, ça va de 50 mètres à 200 mètres.
Oui, c'est vrai.
Selon
oui.
les saisons.
Et vous y faites beaucoup de musique?
Ah, j'y fais. Oui, je vais faire un concert le 29 octobre. Je vais faire un concert Brassens. Salut Brassens, d'ailleurs, toujours.
Qui se déroulera où?
Au cinéma. Le cinéma dans ce livre qui s'appelle L'Éden. Alors voilà, c'est une façon de rejoindre peut-être prématurément le paradis.
Et vous continuez les tournées, donc dommage à Brassens, un rythme plus modéré.
Oui, mais je continue quand même et j'espère continuer quand les lampions du centenaire seront éteints.
Voilà, exactement. Oui, parce que cette année, on en fait beaucoup, puis après, on va tout arrêter. Voilà, Françoise Canetti, merci en tout cas pour ce bel album en quatre parties. Hein, Brassens et ses grands interprètes, Brassens, les années 3 Baudet, Brassens et les artistes de ses premières parties, et puis Brassens, René Fallet et Pierre Arditi. C'est le quatrième CD qui témoigne de votre activité infatigable.
Enfin, j'espère que ça va donner surtout l'envie à de beaucoup de jeunes de reprendre Brassens et de dépasser donc ce centenaire.
Vous travaillez déjà un futur projet, j'imagine.
Oui, absolument.
Ce sera quoi? Vous pouvez pas nous le dire encore.
Pas encore, mais c'est en train de naître.
C'est en train de naître. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Et à l'unanimité de l'équipe, on va se quitter avec le gorille. C'est pas avec vous, Joël Favreau, mais
Mais je crois qu'il avait une mission à remplir, le gorille. Alors il faut quand même le laisser agir.
Voilà. Et c'est une de ces chansons parfaites dont parlait tout à l'heure Jacques Canetti dans sa simplicité. Merci d'avoir été là tous les deux. Au revoir,
merci.
Françoise.
Merci,
au revoir,
Benoît.
Joël Favreau.
Merci, Benoît.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. C'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
Georges Brassens en 1952 dans une de ses chansons parfaites, comme disait Jacques Canetti. Et puis donc, je vous recommande à propos de cette émission et de mes deux invités, d'abord le livre de Joël Favreau, Quelques notes avec Brassens aux éditions L'Archipel, et puis ce quadruple CD qui vient de paraître aux éditions Canetti, Georges Brassens, elle est à toi cette chanson, avec quantité de documents, d'originaux, de reprises de Brassens, et encore tiens, le livre d'Agathe Fallet, la femme de René Fallet, Brassens, Des souvenirs trop beaux pour moi, qui est paru aux éditions des Équateurs.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et à midi sur France Musique, vous le savez, c'est l'heure de mon petit programme de musique légère. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer un hommage à l'un des grands compositeurs viennois des années 30, compositeur d'opérette, Paul Abraham. Mais d'abord, pour nous mettre en appétit, une petite pièce de virtuosité légère, le vol du Bourdon que vous connaissez. Vous ne savez peut-être pas que ça vient à l'origine d'un opéra de Rimsky-Korsakov avant d'être adapté par tous les instrumentistes et sous toutes les formes. Là, c'est le vol du Bourdon par Roger Roger et son grand orchestre. J'en profite pour saluer mon ami Jean-Christophe Keck, le spécialiste mondial de Roger Roger, dont on vient donc d'entendre la version du vol du Bourdon. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais évoquer Paul Abraham, un des plus grands compositeurs d'opérette viennois des années 30. C'est un contemporain, on peut dire à peu près, du français Maurice Yvain. Il est né en 1892, mort en 1960, et il allait à la fois entretenir la tradition lyrique de l'opérette viennoise, mais y amener aussi ce côté moderne, avec les rythmes de foxtrot, le côté un peu jazzy, le côté frivole aussi de l'opérette de l'entre-deux-guerres. On va le voir tout de suite avec son premier grand succès de 1930, Victoria et son hussard. D'abord, Rudolf Schock qui chante une page très lyrique et puis juste après, alors le petit couple léger qu'on a souvent dans les opérettes viennoises, avec même dans cette interprétation des années 60, un petit excès de rire légèrement kitsch qui vous fera certainement pour le moins sourire.
Schau sie in der Westminster Bar.
In der Westminster Bar,
wo ich fast täglich war.
Wo er fast täglich war.
Da trinkt man zur Erfrischung.
Ja, was?
Whisky mit Currysauce.
Was sind denn das für Sachen? Der Junge treibt es wirklich doll.
Man hat von mir den Tipp.
Man hat von ihm den Tipp.
Drum heißt er Wuffy Flip.
Drum heißt er Wuffy Flip.
Trinkt einer diese Mischung.
Was dann?
Dann weg sofort sie los.
Nun Junge, sag schon, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn?
My little boy, ich bleib dir treu. Ich will in deinen starken Händen happy enden. My little boy, wie ich mich freu. Komm her, du darfst mich küssen.
Sie braucht zum glücklich sein, doch nur dich allein willst du einmal sein. Mein Kind, musst du was vom Küssen wissen.
My little boy, ich bleib dir treu. Komm her, du darfst mich küssen.
Okay.
Der Mann, der mich will freien.
Der Mann, der sie will freien.
Muss wie ein Cocktail sein.
Muss wie ein Cocktail sein.
Ein bisschen süß und bitter.
Ja, ja.
Weil ich das gerne mag.
Was sind denn das für Sachen? Das Mädchen ist sehr anspruchsvoll.
Der Gatte meiner Wahl.
Der Gatte ihrer Wahl.
Sei zärtlich und brutal.
Sei zärtlich und brutal.
Halb Raudi und halb Ritter.
Ja, ja.
Weil ich dann gerne sag.
Du Mädchen, sag schon, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn?
My little boy, ich bleib dir treu. Ich will in deinen starken Händen happy enden. My little boy, wie ich mich freu. Komm her, du darfst mich küssen.
Sie braucht zum glücklich sein, doch nur dich allein willst du einmal sein. Mein Kind, musst du was vom Küssen wissen.
My little boy, ich bleib dir treu. Komm her, du darfst mich küssen.
Okay.
Voilà deux pages qui témoignent de l'éclectisme du style donc de Paul Abraham. D'abord le lyrisme et ensuite le foxtrot, revu donc dans une version allemande des années 1960. Il faut dire que Paul Abraham a été très rapidement célèbre également en France, où ses œuvres ont été reprises, et notamment l'opérette Victoria et son hussard, reprise au théâtre du Moulin Rouge en 1933 et donnée un certain nombre de fois sur les scènes françaises dans cette version donc adaptée, dont on va entendre maintenant un extrait. Dans le genre plutôt lyrique, c'est l'étoile d'un soir.
J'entends mon cœur chanter un peu.
Celui que tous nous murmurions un jour.
Nous devons l'oublier, il n'en reste plus rien.
De ton tendre serment, toujours je me souviens. C'est toi. Noir, qui me faisait entrevoir d'un grand amour tout l'espoir. C'est toi qui fis naître en moi le plus merveilleux émoi, les mots je t'aime, je les avais dit.
Noir, qui me faisait entrevoir d'un grand amour.
Victoria et son hussard dans la version française adaptée par André Maupré avec Claudine Granger et le regretté Bernard Sinclair que j'avais souvent reçu à ce micro. En tout cas, voilà, Paul Abraham est installé aussi en France ainsi en 1933 et l'année suivante on donnera également à l'Alhambra son second grand succès, Fleur de Hawaï, une opérette plus exotique qui a également fort bien marché un peu partout en Europe et qui va, comme souvent les opérettes viennoises, être enregistrée par de très 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 grands interprètes, en l'occurrence Richard Tauber, ce merveilleux homme de l'opéra et de l'opérette qui en a gravé plusieurs faces. C'est vraiment un document assez exceptionnel que je vous propose d'écouter maintenant. Merveilleuse voix de Richard Tauber dans Fleur de Hawaï de Paul Abraham. C'était en 1931 et puis suivra encore un autre succès en 1932. Ce sera Ball in Savoy. La difficulté pour Paul Abraham, eh bien, il est installé à Berlin où il vit assez luxueusement après ses grands succès, mais l'arrivée des nazis au pouvoir va complètement bouleverser son existence. Paul Abraham est juif et il va retourner pour une part en Autriche jusqu'en 1938 et aussi en Europe, un peu partout, à Paris notamment, où il se produit régulièrement au fil des années 30. Il participe à divers spectacles et même aussi à des musiques de films, comme ce film franco-allemand « Dactylo », dont on entend une petite chanson de Paul Abraham, chantée en français par Marie Glory. Thank you.
plus noir, mais à mes yeux, il semble être tout bleu. Ma chambre est petite, je le sais, mais elle me paraît un palais. Je me sens heureuse, tout à coup, je reprends goût à tout. Et tout ça parce qu'un chef de bureau m'a pris pour dactylo. Vois la vie en rose, en rose, en rose.
Je vois la vie en rose, une petite chanson de Paul Abraham dans le film Dactylo en 1931. Paul Abraham, donc je le disais, fuyant l'Allemagne puis l'Autriche, installé un temps en France, participe à des spectacles comme Billy et son équipe au Châtelet, mais malheureusement la guerre va le rattraper et il va devoir s'enfuir aux États-Unis où, contrairement à d'autres réfugiés comme Kurt Weill par exemple, eh bien sa carrière musicale va être difficile. D'abord, ses droits d'auteur sont bloqués dans tous les pays de langue allemande, qui était la principale source de ses revenus. Et puis, à New York, il ne trouve pas vraiment le succès, les ouvertures nécessaires. Il est en plus un peu dépressif et sa vie va très très mal tourner. Il se retrouve presque dans la misère. Il se retrouve également interné dans un hôpital. Et c'est seulement ses admirateurs allemands, quelques années après la guerre, qui vont réussir à le faire revenir en Allemagne pour une fin de vie un petit peu moins difficile, mais quand même relativement tragique que ce destin de Paul Abraham, grand compositeur qui mourra en 1960. On va écouter un extrait maintenant de son troisième grand succès, l'opérette Bal im Savoy.
Das ist vorbei, nun bin ich frei, die Liebe. Die Liebe kommt, die Liebe geht, für einen Kuss ist nie zu spät.
Oh,
Rita Alpar, merveilleuse interprète de Paul Abraham, ici dans Balim Savoy, avec le mot l'amour en français, comme on aime bien faire dans les opérettes allemandes ou viennoises. On va maintenant terminer ce programme avec une grande page dansante, l'invitation à la valse de Karl Maria von Weber dans l'orchestration d'Hector Berlioz. Ah, dommage qu'on ne la donne plus jamais dans les concerts, cette merveilleuse invitation à la danse ou à la valse dans le titre français de Weber, orchestré par Berlioz. Ici l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique Titouan Labarre et Emmanuel Rose, réalisation d'Avis Travailleur. Samedi prochain, j'accueillerai le chanteur, donc Yvan Dotin, en compagnie de sa fille Clémentine Autin.
À réécouter sur francemusique.fr.